Voilà, que Dieu soit béni pour sa présence au milieu de nous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pentecôte, ça ne vous a pas échappé, je suppose. Et quoi de plus normal que de parler de cela lundi dimanche de Pentecôte. Mais il ne faudrait pas que ce soit seulement le dimanche de Pentecôte que nous parlions de Pentecôte. C'est comme Pâques, hein. Ce serait dommage de parler de Pâques que le dimanche de Pâques. En fin de compte, c'est des choses que nous voulons vivre quotidiennement et nous voulons comprendre quelle est la promesse du Seigneur à notre égard et ce qu'il veut faire avec son Église, avec nous-mêmes. Alors on va lire quelques versets dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du premier verset de ce chapitre, acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. On va s'arrêter là pour le moment. Ce passage nous relate la première Pentecôte, c'est-à-dire la première fois où Jésus a répandu son esprit sur toute chair, selon la promesse que Dieu avait faite déjà par avance dans l'Ancien Testament par la bouche du prophète Joël. On pourrait lire verset 16, c'est le message que Pierre adresse au peuple réuni. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Voilà. Et la deuxième partie de la prophétie de Joël qui continue au verset 19 n'est pas, j'allais dire, encore arrivée puisqu'elle parle des temps de la fin. Mais nous allons rester sur notre sujet de ce matin, sur l'effusion du Saint-Esprit qui est répandue sur toute chair. Si j'avais un titre à donner, et d'ailleurs je le donne, le titre du message, ce serait, et je vais insister sur un mot, vivre ensemble, j'insiste sur ce mot ensemble, vivre ensemble la Pentecôte. Je crois que c'est important pour nous de considérer que ce que le Seigneur veut faire, il ne veut pas le faire pour chacun de nous d'une manière individuelle, mais il veut le faire pour l'ensemble de la communauté, l'ensemble de l'Église. Nous allons y revenir, mais il y a un lien très étroit, très intime, entre l'Esprit-Saint et l'Église. Nous le voyons, eh bien, dans la parole de Dieu, notamment dans les Actes des Apôtres, et puis aussi, bien sûr, dans les Épîtres, ainsi que dans le livre de l'Apocalypse. Les premiers chrétiens ont vécu cette première effusion du Saint-Esprit, ils l'ont vécu ensemble. Alors chacun a été rempli du Saint-Esprit, mais c'est une expérience qui a été communautaire, une expérience qu'ils ont vécue ensemble. Nous avons lu au verset premier qu'ils étaient tous ensemble ce jour-là. D'ailleurs, ça faisait une dizaine de jours qu'ils étaient tous ensemble. Dans acte 1, on voit que, alors on va pas lire tout le texte, Jésus leur fait cette promesse du Saint-Esprit au verset 8, ils sont tous réunis. Et puis Jésus et remonter à la droite de Dieu le Père, c'est l'ascension. Et puis, là donc, entre l'ascension et Pentecôte, il y a 10 jours, et pendant une dizaine de jours, ils étaient ensemble, et nous pouvons lire verset 13, « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120 personnes, excusez-moi. Donc, ils étaient là, tous ensemble, depuis une dizaine de jours, et arrive le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu, dans cette maison, et ils ont vécu cet événement qui a été pour eux une surprise. Alors, bien sûr, il y avait la promesse de Jésus, mais Jésus ne leur avait pas dit quand cela arriverait, dans peu de jours, mais il n'avait pas dit dans 10 jours, il n'avait pas dit dans 12, dans 8, il n'avait pas précisé le nombre de jours. Et ils étaient loin de s'imaginer que ça allait être comme cela. Et on voit bien cette surprise. Cela est arrivé d'une manière soudaine, puisqu'il est dit tout à coup. Tout à coup, donc, comme cela est arrivé aussi sur Corneille, on en reparlera tout à l'heure. Et là, tout à coup, donc, il y a eu ce bruit qui est venu, venant du ciel, comme celui d'un vent impétueux, et ce bruit-là a rempli toute la maison où ils étaient assis. Donc ils étaient là dans une maison, ils n'étaient pas dans le temple, puisqu'il est dit que c'était une maison, et ils étaient assis. Ils étaient assis, c'est une précision bon, qui a son importance, puisque il faut savoir que les Juifs ne prient pas assis, ils prient debout. Donc ils n'étaient pas en train de prier à ce moment-là. Alors, que faisaient-ils? Étaient-ils en train de se reposer? Possible, était-il en train d'écouter la lecture de la parole de Dieu? Possible aussi, enfin, voilà. Mais ils ne s'attendaient pas, juste pour dire qu'ils ne s'attendaient pas à vivre ce moment-là, à cet instant-là, ça est arrivé d'une manière soudaine, dans ce moment-là. Et puis, alors, il y a eu ce vent, ils ont tous vécu ça, ce bruit qui était là, ils ont tous entendu et ils ont tous vu, ces langues semblables à des langues de feu qui leur apparurent, et ces langues de feu se sont séparées et elles se sont posées sur chacun d'eux individuellement. On voit que, et là c'est important, on voit que ils l'ont vécu ensemble, mais tous personnellement ont reçu cette plénitude de l'Esprit, puisqu'il est dit qu'ils furent, au verset 4, tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'ai beaucoup apprécié l'introduction que notre bien-aimé frère Antoine a apportée par rapport à l'introduction de la Sainte-Cène et par rapport à ces pierres vivantes. C'est vrai que nous formons un corps, on va en reparler, nous formons un corps. Et quand nous venons à l'Église, nous venons chercher, bien sûr, quelque chose pour nous, mais, et c'est vrai, nous avons raison. Mais, en fin de compte, n'oublions pas, et quand nous avons fait notre série sur l'Église, que l'ADN même de l'Église, c'est une assemblée. C'est ce que veut dire l'Église. Donc si on note le côté communautaire de l'Église, le côté communion fraternelle, on note tout de l'Église. On enlève tout de l'Église. C'est pour ça que lorsque nous venons aux réunions de l'Église, lorsque nous venons dans la communion fraternelle, nous ne venons pas simplement chercher quelque chose pour nous-mêmes, individuellement. D'abord, nous venons pour Dieu, bien sûr, on a bien compris. Hein. On vient pour Dieu avant toute chose, mais nous ne venons pas simplement pour nous-mêmes, mais nous venons aussi pour les frères et les sœurs, parce que nous faisons tous partie d'un même corps. Alléluia. Nous faisons tous partie d'un même corps. Le Seigneur, eh bien, nous parle, il parle à son Église, et chacun d'entre nous peut retirer quelque chose pour sa propre vie, mais l'ensemble de la communauté aussi. Alors, on va revenir sur ce fait, mais j'aimerais, avant d'aller plus loin, voir avec vous le lien étroit qu'il y a entre l'Esprit de Dieu et l'Église. L'Esprit de Dieu et l'Église. Et quand je parle d'Église, je parle bien de la communauté des croyants, de la communion fraternelle, de ce corps de Christ. Et c'est important de le souligner. Déjà, c'était quand même la promesse, nous rappelons-nous, c'était la promesse de Jésus. On voit ça dans Jean 14, versets 16 et 18, et puis dans Jean 16, du verset 7 à 15, où Jésus nous avait bien dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Et il parle là à ses disciples qui sont réunis. Et il ne nous a pas laissés orphelins, il ne nous laisse pas seuls. Mais lui étant remonté aux cieux, il nous a envoyés afin que nous ne soyons pas seuls, afin que nous ne soyons pas orphelins, le Consolateur, l'Esprit Saint, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous fortifie, qui nous renouvelle sans cesse et sans cesse. C'est l'Esprit de Dieu qui fait naître l'Église, qu'il a fait naître, alléluia, mais c'est aussi cet Saint-Esprit qui l'a fait accroître. Il est écrit que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 31, que l'Église s'accroissait par, vous connaissez par cœur ce verset, je suppose, hein. C'est un verset à connaître par cœur, ça. Là, c'est comme Jean 3, 16, il y a des versets comme ça à connaître par cœur, hein. L'Église, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc on voit que le ministère du Saint-Esprit est vraiment en faveur de l'Église pour lui faire prendre corps et pour la faire accroître. La parole de Dieu, il y a un terme qui revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et dans les Épîtres. C'est le terme communion. Et ce terme est employé parfois par rapport à la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Nous sommes en communion avec le Père, le Fils et aussi l'Esprit Saint. Il n'y a pas trois dieux, on est d'accord, il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce terme, on le retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. L'apôtre Paul termine son épître aux Corinthiens avec ce verset, et il dira que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion. Alors certaines versions ont la communication, mais quand on regarde le verbe, c'est un mot en grec, c'est bien le mot communion. La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Alors, l'apôtre Paul termine sa deuxième épître aux Corinthiens, et on pourrait même dire ses deux épîtres aux Corinthiens, puisque ça arrive à la fin, vraiment, de ces deux épîtres aux Corinthiens. Il termine avec ça, et c'est important ce que dit l'apôtre Paul, parce que, quand même, rappelons-nous qu'il y avait beaucoup de divisions chez les Corinthiens. L'Église de Corinthe était divisée. C'est à cette Église que l'apôtre Paul dira « Mais non, s'efface, etc. » Certains disent que moi, je suis de Pierre, moi de Paul, etc. Donc, chacun avait un petit peu son leader, son exemple, mais ce sont tous des ouvriers, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Hein. L'un a planté, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Donc, nous n'avons pas à être divisés par rapport à des hommes. Ce qui nous unit, c'est Christ. Et c'est encore dans cette épître, par rapport aux divisions qu'il y avait dans cette Église, qu'il dira aussi qu'il donne son enseignement et qu'il donne cette image de l'Église étant un corps. Un corps. Et chacun a son utilité dans ce corps de Christ qui est l'Église. Le Seigneur est celui qui vraiment a donné sa vie pour l'Église. Il s'est livré lui-même. Et l'Esprit de Dieu vient vivifier cette Église, de la même manière que lorsque l'Éternel a créé Adam et Ève, il l'a formé avec la terre et il a soufflé en lui son esprit et il est devenu une âme vivante. Et sans l'esprit de Dieu, l'Église, elle n'est pas vivante. Elle n'est pas vivante. Et il nous faut cette communion du Saint-Esprit. Alléluia. Ce qu'il nous faut, je veux vraiment insister là-dessus, c'est cette communion du Saint-Esprit. Nous sommes en communion ce matin avec le Saint-Esprit. Et ça, déjà, par rapport à toutes les divisions qu'avaient les Corinthiens, on voit pourquoi l'apôtre Paul termine avec ça. Eh bien, efface les divisions. On retrouve la même expression dans les Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 1er. Alors, ça n'apparaît pas dans toutes les versions, mais en grec, c'est clair. Philippiens chapitre 2, verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, alors là, plusieurs versions, s'il y a quelque union d'esprit, hein, peut-être que certains ont cette version, mais en grec, c'est s'il y a quelque communion avec l'esprit, s'il y a quelque communion avec l'esprit de Dieu, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Alléluia. Donc, on voit ici que l'apôtre Paul insiste aussi sur cette unité du corps de Christ dans cette communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes donc en communion avec le Saint-Esprit et ce que l'Esprit veut faire, il veut le faire à toute l'Église. Il est celui qui forme l'Église. L'apôtre Paul le rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc on retrouve ici cette idée de communauté, de l'Église en tant que communauté. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc on voit que là, le lien étroit qu'il y a entre l'Esprit de Dieu et l'Église, il forme l'Église et il n'y a plus de différence dans l'Église. Soit juif, soit grec, et on sait qu'il y avait avant cela des différences raciales, mais en Christ et dans la communion de l'Esprit, il n'y a plus ces différences, ni esclaves, ni libres, donc il n'y a même plus de différences sociales. Nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit, que son nom soit glorifié. Encore un autre point pour parler à nouveau de ce lien étroit entre l'Esprit de Dieu et l'Église. Dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, il y a les sept messages que le Seigneur adresse aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Thyatire, à Pergame, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc il y a sept églises. Et à chaque fois, c'est intéressant de noter ça, à chaque fois, le message était adressé pas à un individu en particulier, mais il est adressé à la communauté entière, que ce soit Éphèse, Pergame, etc. Et c'est intéressant de le noter, c'est que à la fin de ces sept messages, pourrait le vérifier, à la fin de ces sept messages pour chaque église, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Comprenez ? Ce qu'il dit, ce n'est plus seulement à l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Laodicée, etc. C'est pas simplement à ces églises, déjà là, rien que ça, il y a l'aspect communautaire, mais celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On voit vraiment là encore le lien étroit qu'il y a entre l'Esprit de Dieu et chaque église et son message qui s'adresse à toute l'église. Encore une fois, et je disais tout à l'heure que lorsque nous venons à l'église, nous venons aussi chercher une parole de Dieu pour nos vies et nous avons raison de le faire. Mais nous venons aussi chercher une parole de Dieu pour l'Église entière. pour l'Église entière. Quelle direction, j'allais dire, le Seigneur veut donner à l'Église? Et j'oserais dire, quelle direction prophétique aussi, puisque nous savons que l'Esprit est celui de la prophétie. Quelle direction prophétique l'Esprit veut donner à l'Église? Il y a là une dimension spirituelle énorme que le Seigneur veut nous adresser à chacun. Et que nous pourrions aussi dire et souligner le fait que à la fin du livre de l'Apocalypse, au verset 17 du 22e chapitre, nous voyons que l'Esprit et l'Église sont sur la même longueur d'onde puisqu'ils ont la même prière et ils disent ensemble « Viens, Seigneur Jésus. » Alléluia. « Viens, Seigneur Jésus. » Après avoir parlé du lien étroit qu'il y a entre l'Esprit et l'Église, et on aurait pu, bien sûr, continuer sur ce point-là, mais j'aimerais revenir sur, ceci étant dit, sur, j'allais dire, le cœur du message de ce matin, vivre ensemble la Pentecôte. Nous avons déjà vu ensemble, et nous l'avons lu, que au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, ils ont vécu ensemble ce moment-là. Ils étaient, selon ce qu'on a lu, environ 120 personnes. Ils ont vécu ensemble ce moment-là. Et on va voir ensemble, dans le livre des Actes des Apôtres, que ce n'était pas le seul moment où ils ont vécu d'une manière communautaire l'effusion du Saint-Esprit. Dans Acte 10, que se passe-t-il dans Acte 10? Pierre va chez Corneille. Pendant que Pierre est chez Corneille, qu'est-ce qui se passe? Pendant que Pierre annonce la parole chez Corneille, il va se passer la même chose qui s'est passée dans Acte 2. Ils vont tous être remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et au verset 44, il est dit « Comme Pierre annonçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. » Ils étaient tous ensemble. Il y avait un peu de monde chez Corneille. Il est dit au verset 27, que lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Et si on lit le texte, Corneille avait invité sa famille, ses parents et ses amis intimes. Donc il y avait quand même un peu de monde. Beaucoup de personnes étaient réunies. Et ce moment-là, ils l'ont vécu d'une manière communautaire. On va continuer dans Acte 19. Acte 19. Acte 19, Paul, arrive à Éphèse. Et là, il trouve un groupe de disciples qui n'ont pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc Paul va prier pour eux. Et au verset 6, il est dit, « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. » Voilà, en tout, ils étaient environ 12 hommes. Donc, on voit ici qu'ils ne l'ont pas vécu d'une manière individuelle, mais encore d'une manière collective, même si le groupe ici est plus restreint. On parle de 12 hommes. Alors, peut-être y avait-il des femmes, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils étaient là, une douzaine de personnes, et ils ont vécu ensemble ce moment. On pourrait trouver d'autres textes dans Actes 4. Actes 4. On a encore un autre épisode où les disciples ont été tout à nouveau remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 4, verset 23. C'est après que les apôtres Pierre et Jean ont été relâchés. Il nous a dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ah, j'aime bien cette expression, hein, ils allèrent vers les leurs. Et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, etc. » Et puis on peut lire au verset 31, à la fin de leur prière, il dit, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Là encore, nous voyons que quand ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, ils l'ont vécu ensemble. Ils l'ont vécu ensemble. Quand on vit quelque chose ensemble d'aussi intense qui vient du ciel, ça ne peut que favoriser la communion fraternelle. Ça renforce les liens. Les barrières tombent. Si Babel, dans l'Ancien Testament, a été la confusion des langues et la dispersion des peuples, ainsi que leur séparation, la Pentecôte, elle, est l'unification en Christ, bien sûr, et par l'Esprit, de l'Église qui est formée d'hommes et de femmes issus de toutes les nations. Les barrières tombent en Christ. On arrive à se comprendre les uns les autres. Car qu'est-ce qui fait que les hommes, les femmes se disputent, se rivalisent, se divisent? Il y a des barrières, des incompréhensions. Mais l'Esprit de Dieu nous amène à avoir un autre type de relation avec les autres. Nous comprenons, j'allais dire, leur manière de penser. Nous saisissons ce qu'ils sont. Et quand bien même, parfois, il y a des incompréhensions, quand bien même il y a des blessures, l'Esprit de Dieu nous pousse au pardon. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur de pouvoir vivre ensemble. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous l'avons lu tout à l'heure et à deux reprises, ce verbe, il revient. Je répandrai de mon esprit. Alors, quand on utilise le verbe répandre, c'est pas mettre un peu d'eau à un endroit précis. Répandre, c'est répandre de l'eau, c'est sur toute une surface. C'est ça, en fin de compte. On retrouve là encore cette idée de communauté, et en plus il est quand même précisé sur toute chair. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Amen. Merci Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire et qui est unique. Qui est unique. On ne retrouve pas ça dans l'Ancien Testament. Il y a peut-être deux épisodes qui ressemblent un peu à ça dans l'Ancien Testament. Je dis vraiment un peu parce que c'est pas sans commune mesure avec ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance. On retrouve ça, par exemple, un peu du temps de Moïse, lorsque le Seigneur va prendre de l'Esprit qui est sur Moïse, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, et va les mettre sur les anciens qui sont là. Et il nous a dit qu'ils ont prophétisé, mais ils ne continuèrent pas. Donc on voit que ça ressemble, mais c'était limité parce que c'était réservé aux anciens du peuple d'Israël. Et c'était limité dans le temps. Ça, ils n'ont pas continué dans le temps. On retrouve un peu aussi la même chose du temps du prophète Samuel. Il y avait une troupe de prophètes. Et David s'était réfugié auprès de Samuel parce que Saül cherchait à le tuer. Et Saül va envoyer des serviteurs à trois reprises auprès du prophète Samuel. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? À chaque fois que les serviteurs de Saül arrivaient dans la troupe de prophètes, l'Esprit de Dieu les saisissait et ils prophétisaient eux-mêmes. Même à un moment donné, bon, salut, il y va, je vais y aller moi-même. Et là aussi, l'Esprit de Dieu va le saisir et il va se mettre à prophétiser. Mais là encore, on voit que c'est limité dans l'espace, c'est limité au nombre de personnes, c'était très localisé et ça n'a pas duré dans le temps. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est sur toute chair. Alléluia. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Comprenez? Et nous voulons encore comprendre aujourd'hui que cette promesse, elle est pour nous. Et en tant qu'Église, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. En tant qu'individu, j'ai besoin personnellement d'être rempli du Saint-Esprit. Mais nous avons besoin d'être ensemble remplis du Saint-Esprit. Vivre ensemble la Pentecôte. Avant ce jour de la Pentecôte, et nous l'avons lu tout à l'heure, ils étaient tous ensemble, ils persévéraient dans la prière. Ils ont persévéré pendant 10 jours dans la prière. Il nous a dit qu'il y avait les apôtres, leurs noms sont donnés, les 11 apôtres, puisque un, Judas, n'était plus. Ils l'ont remplacé après. Il y avait environ 120 personnes. Il nous est précisé aussi qu'il y avait la Marie, la mère de Jésus, et puis les frères de Jésus. Tout ce petit monde qui était là, il nous a dit qu'ils ont persévéré dans la prière tous d'un commun accord. Ils ont dû se mettre d'accord. Alléluia. Ils ont dû se mettre d'accord. Et on sait qu'il y avait parfois quelques bisbilles entre eux, hein. Ils s'étaient disputés quelques jours auparavant pour savoir qui était le plus grand dans le royaume des cieux, etc. Hein. Et puis on voit même que Marie et les frères de Jésus aussi. Donc on voit même à un moment donné Marie et puis les parents proches de Jésus qui étaient là. Ils ont voulu se saisir de Jésus parce qu'ils pensaient qu'il était fou. Hein. Il est hors de sens. Donc voilà, ils ont dû chacun... La croix est passée entre-temps, la résurrection, l'ascension, ça les a mis d'accord, hein, tout ça, hein, tous ensemble. On voit que dès le départ, le Seigneur a attaché beaucoup d'importance à ce que les disciples soient ensemble. Et nous savons que si 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent pour demander quelque chose, le Seigneur leur donnera. On cite souvent ce passage et on oublie de citer ce qu'il y a avant. Ce qu'il y a avant nous parle du pardon et la discipline dans l'Église. C'est important. Car en fin de compte, on pourrait être ensemble sans l'être véritablement. On pourrait être ensemble sans l'être de cœur. On pourrait être ensemble physiquement sans l'être de cœur. Et c'est pour cela que Jésus, avant de dire « si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux », il parle du pardon et de la discipline dans l'Église. Afin que son peuple soit un seul cœur en Christ et par l'Esprit de Dieu. Et ainsi, nous pouvons vivre ces choses-là ensemble. Béni soit le Seigneur. Je bénis Dieu pour ces expériences marquantes et décisives dans ma propre vie, dans mon ministère, où j'ai vécu avec l'Église de tels moments, dans des réunions comme celle-ci, ou aussi parfois dans des colonies chrétiennes, où nous vivons des choses très intenses et marquantes. Mais cette promesse, elle est pour nous. Alléluia. Il y a des défis énormes dans notre génération d'aujourd'hui, dans notre société, dans notre pays, dans notre ville. S'ils ont pu atteindre leur génération à cette époque, c'est parce que le Saint-Esprit a saisi tous les disciples. Et nous voulons prier, faire ensemble cette prière. Seigneur, étends tes mains sur chacun d'entre nous. Car cette promesse, elle est pour nous aujourd'hui. Pas simplement moi en tant qu'individu, mais elle est pour nous tous, pour l'ensemble de la communauté. Qu'est-ce que tu as à nous dire par le Saint-Esprit ?